Rabamako et à Nouakchott, 22h à Niamey, bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous, aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Les nouvelles perspectives économiques du Niger sont plus favorables selon le FMI. En Mauritanie, Nouakchott souffre d'une mauvaise gestion de ses ordures.
C'est propre, mais concernant l'assainissement, les gens doivent avoir des comportements plus citoyens. Quand les gens balayent l'intérieur de leur maison, ils versent les ordures dans la rue. Ce n'est pas bien.
Reportage de Brahim Dia à suivre. Enfin, au Mali, les victimes de viols et de mariages forcés pendant l'occupation réclament justice. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Le président américain Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro ont confirmé aujourd'hui ce que les observateurs considèrent comme un rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba. Cet important développement intervient après la libération d'un contractuel américain, Alan Gross, détenu depuis 5 ans à La Havane. Lionel Gaïma fait le point.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Prenant la parole ce mercredi à la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif américain a rappelé que les mesures rigides prises à l'encontre de Cuba, depuis plus d'un demi-siècle, n'ont pas fondamentalement changé les réalités politiques sur l'île. L'embargo n'a tout simplement pas eu l'effet escompté et Barack Obama veut normaliser les relations américano-cubaines.
J'ai instructé Secrétaire Kerry de immédiatement commencer des discussions avec Cuba to reestablish diplomatic relations that have been severed since January of 1961.
Le président Obama dit qu'il a demandé au secrétaire d'État John Kerry d'entamer immédiatement des discussions sur la normalisation des relations diplomatiques avec La Havane. Il y aura également une révision quant à la désignation de Cuba comme une nation terroriste. Les voyages entre les deux pays seront désormais plus faciles. Et M. Obama souhaite voir une coopération dans le domaine de la santé, notamment dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest.
Ebola, la menace toujours persistante en Afrique de l'Ouest. Plus de 130 nouveaux cas ont été confirmés à Freetown. Rien que pour la première semaine du mois de décembre, les autorités sierra-léonaises ont lancé aujourd'hui une campagne de porte-à-porte à la recherche de personnes atteintes du virus. D'autre part, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé qu'il partait ce mercredi soir pour une tournée dans les pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par l'épidémie d'Ebola. Outre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, M. Ban Ki-moon va se rendre aussi au Mali au Ghana, où est basée la mission de l'ONU pour la lutte contre Ebola. Et puis un nouveau premier ministre a été nommé aujourd'hui en Somalie. Omar Abdi Rachid Ali Sharmak avait déjà occupé cette fonction en 2009-2010. Il est le troisième premier ministre en 2 ans dans ce pays, toujours en proie aux insurgés islamistes Shabab. Cette nomination doit être approuvée par le Parlement.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Pakistan, les autorités prennent des mesures pour répondre à l'attaque perpétrée hier mardi par les talibans contre une école de Peshawar, alors que la nation observe un deuil national de 3 jours pour les 132 enfants et membres du personnel tués dans cette tragédie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé l'extension pour 1 an de livraison d'aide humanitaire dans les zones contrôlées par les rebelles syriens sans le consentement du gouvernement de Bachar al-Assad. Une résolution adoptée aujourd'hui à l'unanimité prévoit 4 passages frontaliers pour ces livraisons en Turquie, en Irak et en Jordanie. Selon les Nations Unies, plus de 12 millions de Syriens ont besoin d'une assistance humanitaire à cause du conflit qui a déjà fait plus de 7,5 millions de déplacés. Et puis la première du film de Interview a été annulé ce mercredi suite à de nouvelles menaces terroristes proférées par les hackers de Sony Pictures. Cette parodie hollywoodienne qui porte la griffe des acteurs Seth Rogen et James Franco raconte l'histoire de 2 médiocres journalistes américains chargés d'assassiner le leader nord-coréen Kim Jong-un. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. On passe à la suite de Sahel Plus et c'est avec Claire Morin-Gibourg.
Retour à la partie magazine de Sahel+. Nous ouvrons l'émission avec le Niger. Selon le Fonds monétaire international, les résultats macroéconomiques globaux du Niger sont satisfaisants dans l'ensemble et les perspectives à moyen terme restent favorables. De Niamey, la correspondance d'Abdoul Razak Idrissa.
Réagissant à ce communiqué, Abdelmoumini Ousmane, secrétaire général du cadre d'action pour la défense de la démocratie et des droits humains au Niger, relève d'abord quelques contradictions.
La première réaction de notre part, en lisant ce communiqué, c'est qu'il est paradoxalement déséquilibré, dans la mesure où on ne peut pas en même temps dire que la situation est satisfaisante quand on dit que les investissements publics sont quand même patiné du fait de la rareté des ressources publiques et de l'aide aussi, et que les objectifs globaux en matière de réduction de la pauvreté, ces objectifs n'ont pas été atteints tant en 2013 qu'en 2014.
Les experts du Fonds monétaire international venus à Niamey ont relevé qu'avec la mise en route très prochaine de l'exportation du pétrole brut nigérien, la croissance économique du pays devrait rebondir à 6,5% en 2014. Une révélation de taille selon Abdelmoumine Ousmane.
Et ça, le gouvernement nigérien ne nous l'a pas dit. Ça veut dire qu'on n'est pas au niveau des 20 000 barils le jour. Il faut clairement dire combien on gagne au niveau de ce pétrole. Donc il y a une situation qui est relativement aisée, améliorée au Niger. Toute la question, c'est que les moyens que nous arrivons à mobiliser, ils sont mal investis. On les utilise pour autre chose, pour des dépenses qui ne sont pas en lien avec les besoins des Nigériens. Voyez-vous, aujourd'hui, on voit des enfants assis par terre dans les écoles. On voit que nos établissements de soins manquent du minimum pour fonctionner. On voit que nos parents qui sont en campagne sont exposés à la famine. On voit évidemment qu'il y a des problèmes d'accès à l'eau. Les Nigériens sont dans une paupérisation accélérée. Pendant ce temps, on fait d'autres dépenses qui n'ont rien à voir et que les Nigériens n'ont pas demandé. Un avion présidentiel à prix de 21 milliards, qui a demandé? La construction d'un nouveau palais présidentiel, qui en fait la demande? La construction d'un échangeur à 27 milliards, qui en fait la demande? Donc on est en train réellement d'utiliser le peu de moyens que nous avons pour les engloutir dans des dispositions ou dans des dispositifs sans commune mesure avec les besoins des Nigériens.
Il reste cependant, selon les experts du FMI, que des risques à la fois internes et externes pèsent lourdement sur ces belles perspectives économiques pour le Niger. Le plus grand risque à l'externe étant une détérioration de la situation sécuritaire régionale. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour La Voix de l'Amérique.
Direction la Mauritanie pour notre dossier de quelques milliers d'habitants vers les années 60. Nouakchott, la capitale, abrite actuellement presque 1 million de personnes. Cette urbanisation rapide, mal maîtrisée, cause de sérieux problèmes de gestion des ordures. Le contrat de la société étrangère chargée de la gestion des déchets solides de la ville a été résilié. Pour faire face à la nouvelle situation, le gouvernement a mené une campagne d'assainissement. Les jeunes des quartiers, eux, aussi se mobilisent. Reportage de notre correspondant à Nouakchott, Brahim Dia.
La grande campagne d'assainissement de la ville de Nouakchott, lancée par le président de la République Mohamed Oul Abdelaziz le 25 octobre dernier, a duré environ 1 mois. Les ministres, fonctionnaires, employés des sociétés publiques et privées, citoyens, tout le monde s'est mis au pelle et râteau pour dégager les ordures sous lesquelles croulait la ville. Assa, mère de famille, habite Sepha, quartier périphérique de Nouakchott. Elle a participé à la campagne.
Toute la ville a été balayée. Notre quartier a été balayé. Les gens se sont mobilisés. Le chef de l'État a envoyé des responsables qui sont venus participer à la campagne. C'est propre, mais concernant l'assainissement, les gens doivent avoir des comportements plus citoyens. Quand les gens balayent l'intérieur de leur maison, ils versent les ordures dans la rue. Ce n'est pas bien.
D'autres jeunes de la ville n'ont pas attendu le lancement d'une campagne officielle pour retrousser leurs manches. Les membres de l'ONG Hubul Watan, Amour de la Nation, se mobilisent pour assainir les quartiers de Nouakchott et sensibiliser les populations sur l'importance de l'hygiène. Nias Oumar Amadou est un des responsables de cette ONG.
Tout d'abord, on a commencé par notre quartier nous-mêmes, notre Mokata qui s'appelle Sepha. Chaque vendredi, on était sur le terrain en effectuant des assainissements à partir de 9h jusqu'à 16h de la journée. Et de ce fait, on sensibilise aussi les populations en ce qui concerne qu'ils arrivent à avoir cette culture de citoyenneté afin de puissent assainir leur zone. Parce que l'hygiène, c'est quelque chose qui est primordial. Et que la majeure partie des citoyens se dit que, bon, comme il y a une société qui s'occupe de ça, eux, ils ne s'en mêlent pas. Et donc, nous, on s'est donné ces moyens-là. Chaque vendredi, on était sur le terrain, les vendredis et les samedis. Et vu qu'aussi le calendrier a changé, et chaque dimanche, on l'effectue. Et partout ailleurs, dans tous les Mokata de Nouakchott, à savoir Sebkhara, Elmina, Toujinin, Darnaïm, Kzar, n'empêche qu'on n'a pas les moyens, mais avec les moyens de bord qu'on a, on effectue ces assainissements et on continue de le faire.
Pour débarrasser Nouakchott de ces tonnes d'ordures, il faut plus que les frêles épaules et la volonté de ces jeunes. Il faut plus qu'une campagne ponctuelle d'assainissement. C'est pourquoi, pour remplacer la société étrangère dont le contrat a été résilié, la communauté urbaine de Nouakchott a lancé un avis d'appel d'offres pour trouver une nouvelle structure qui se chargera de la gestion des déchets solides de la ville. En plus de ces déchets solides, Nouakchott fait également face aux eaux usées. Assa, habitante du quartier Sebkha.
Nous n'avons pas de solution pour les eaux usées. Nous, les teinturières, par exemple, nous versons les eaux issues de notre activité dans la rue ou dans des fosses que nous creusons devant nos maisons. Et comme nous sommes dans un quartier humide, avec les remontées, l'eau des fosses finit par se déverser dans la rue. Nous voulons des canaux pour l'évacuation de ces eaux. C'est la même chose pour les déchets humains.
Nouakchott ne dispose guère de système d'évacuation des eaux usées. Plusieurs quartiers de cette ville situés en dessous du niveau de la mer sont habituellement humides du fait des remontées d'eau saline. Avec les changements climatiques, certains experts prédisent le pire si un système d'évacuation des eaux n'est pas mis en place. Brahim Dia à Nouakchott pour La Voix de l'Amérique.
Nous sommes au Mali pour finir l'émission. Des organisations de défense des droits humains ont déposé une plainte au nom de 80 survivantes de viols et de violences sexuelles durant l'occupation du nord du pays par les groupes armés. Plus de 2000 femmes et filles de la région auraient été victimes de viols et de mariages forcés pendant cette période. Les précisions de Félix Yepassis Zembrou.
Lorsque Gao et Tombouctou ont été investis par les islamistes, des centaines de femmes et de filles ont été violées, parfois par plusieurs hommes. Les djihadistes ont imposé le mariage forcé dans les villes et villages sous leur contrôle. Morta Mariko, un militant malien des droits humains.
C'est des gens qui ont été dénoncés par la population, qui ont été dénoncés par certaines victimes, qui ont dit « moi je reconnais ce monsieur-là, c'est celui-là qui est rentré chez moi, c'est celui-là qui a violé ma fille ». Donc, si vous libérez ces personnes-là, qui vont se retrouver face à face avec les victimes, donc vous mettez la vie des victimes en danger.
Les groupes de défense des droits humains et les associations locales ont identifié au moins 2700 survivantes des viols et des violences sexuelles entre mars 2013 et début 2013 à Gao, Kidal et Tombouctou. À ce jour, peu a été fait pour aider ces femmes. Il n'y a pas de tribunaux à proprement parler dans le nord Mali, et les enquêtes y sont lentes, déplore Mokhtar Mariko.
Mais malheureusement, ces plaintes n'ont pas pu aboutir parce que le parquet de la commune 3 a envoyé les dossiers à la brigade d'investigation judiciaire de police. Et là, les dossiers sont en train de dormir dans les tiroirs.
Avec l'appui des ONG maliennes, de l'Association malienne des droits de l'homme et la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Mariko représente 80 survivantes, dont la plus âgée a 60 ans et la plus jeune 7. Alors que beaucoup de femmes ont fui, d'autres sont restées sur place. Celles qui sont de retour sont obligées de côtoyer leurs agresseurs qui ont été libérés dans les échanges de prisonniers entre le gouvernement malien et les groupes armés, explique Mariam Sek de l'ONG Sini Sanouman.
Si elles portent plainte, il se peut qu'il y ait un problème après. Problème pourquoi? Est-ce que l'agresseur X est auprès d'elle ou bien est-ce que l'agresseur est loin d'elle? Et si l'agresseur est près d'elle, il pourrait y avoir un problème sécuritaire.
Son ONG a apporté une assistance médicale aux survivantes, leur a fourni des lieux d'accueil et les moyens de formuler leurs plaintes. Beaucoup de femmes connaissent leurs agresseurs, mais ne peuvent les identifier que par les vêtements qu'ils portaient ou la langue qu'ils parlaient, souligne l'activiste Mokhtar Mariko.
Il n'y a aucune action conséquente qui a été posée par l'État en faveur des femmes et des filles qui ont été violées. Donc, certaines femmes ont perdu leur mari parce qu'elles ont été violées, les maris ne veulent plus d'elles. Donc, certaines femmes sont tombées malades parce qu'elles ont des conséquences abominables sur leur corps. Il y a eu des enfants aussi qui sont nés au nord, qui n'ont pas de père.
Certaines femmes conseillent à leurs filles de ne révéler à personne les souffrances endurées sous l'occupation. En aidant ces survivantes à porter plainte, les militants des droits humains espèrent qu'un plus grand nombre de victimes de viol auront le courage de saisir la justice.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique, 102 FM à Bamako.
Mbafo, une émission interactive en Bambara, tous les samedis de 20h à 21h, temps universel. Des discussions sur des thèmes variés comme la sécurité au Mali, le rôle des femmes, la jeunesse, le chômage, entre autres. Pour y participer, envoie un nouveau numéro de téléphone sur notre page Facebook VOA Service Bambara ou un email à voabambara@gmail.com.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la technique, Wojtek Journiak. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Majid Soula et son Sisafan Nag. Rendez-vous demain 21h, temps universel sur VOA Afrique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
عايش نموت جرحنا راه